Il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest, l'émission de Radio Immo où l'on parle de tout sauf d'immobilier. Et pour ce faire, en ce joli mois de mai, eh bien je suis ravie de retrouver Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna.
Vous êtes en forme aujourd'hui?
Très en forme en plus pour une émission passionnante comme toujours.
Et oui, on va parler intelligence artificielle aujourd'hui. Une méchante bête ou pas, on va voir ça.
Comment remettre l'humain au cœur de l'intelligence artificielle? Cette nouvelle technologie nous prendra-t-elle nos emplois? Transformera-t-elle également nos entreprises? Peut-on tout lui demander et a-t-elle des limites? À l'heure où cette IA est caricaturée, incomprise, adulée, voire attendue, il est temps de prendre un peu de recul et d'essayer de poser les bases d'un débat un peu plus apaisé. Pour cela, quoi de mieux que de donner la parole à une personnalité aux compétences multiples, tant en matière de management que de nouvelles technologies? Pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Dejoux. C'est parti, droit devant. Largons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Cécile Dejoux.
Bonjour Philippe.
Nous sommes ravis de vous accueillir avec Johanna dans cette nouvelle émission de Complètement à l'ouest. Alors pour nos auditeurs, vous êtes un peu multicarte, si vous m'autorisez cet adjectif. En effet, vous êtes tout à la fois professeur au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, mais aussi à l'ESCP, l'école de commerce parisienne bien connue. Je n'oublie pas, Cécile Dejoux, de mentionner votre activisme sur les réseaux sociaux. J'en veux pour preuve votre chaîne YouTube, plusieurs milliers d'abonnés, chaîne YouTube Transformation managériale et IA, ou encore vos différentes modules d'enseignement en ligne, ces fameux MOOC. Et vous nous indiquiez qu'au mois de mai sortira un nouveau MOOC sur la plateforme FUN. Ce MOOC s'intitulera « Management post-Covid ». Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est votre dernier livre intitulé « Ce sera l'IA et moi », et il faut insister sur le « et », paru l'année dernière chez Vuibert. Alors, avant que nous évoquions les sujets de management et de nouvelles technologies, notre émission débute toujours par un court extrait sonore. Et celui-ci ne devrait pas vous laisser indifférente, tant on y parle de nouvelles technologies, mais avec humour.
En Chine, ils sont en train de développer une appli pour qu'on se note entre nous. Se mettre des notes entre humains, pour se surveiller mutuellement. C'est un peu flippant, c'est un peu flippant. Peut-être que ça arrivera un jour ici, peut-être qu'un jour tu partiras chez les amis après un dîner, tu diras ah, « Putain, ça fait chier. Oh. » Avec leur jeu, j'ai rien compris, je perds à chaque fois. Mets-leur deux. Mets-leur mes deux étoiles, voilà. Pour prévenir tout le monde. Ils veulent faire ça en fait pour gérer les incivilités en Chine. C'est quand tu traverses au feu rouge, tu vois, on te voit traverser au feu rouge, tu te mets une sale note. Quand tu dépasses dans une queue, avant on pouvait se débrouiller, on pouvait dire bah écoute, tu es en train de dépasser, tu peux passer à l'arrière parce que tout le monde a fait la queue en fait, connard. Et ça se passe bien, tu vois. Et maintenant on aura des notes, on pourra faire. Mais vas-y, je t'en prie, vas-y, double. Ils veulent s'en servir aussi pour que les banquiers ou les loueurs d'appart aient accès aux notes pour savoir si tu mérites ou pas. Moi, si un jour ça arrive en Europe, je ferai n'importe quoi avec les notes. Je ferai n'importe quoi. Je verrai un mec racketter un autre, je ferai oh, « toi, je te mets 5 sur 5 ». Force de persuasion. Top. Ils sauvent l'avion d'un crash. 1. Aucun sens du spectacle. Et on pourrait se dire « ouais, mais c'est qu'en Chine. Ouais, c'est qu'en Chine. Attends, en Chine, ils sont bizarres. » Ça existe un peu en France. Ça existe un peu sur Tinder. Ouais, sur Tinder, en fait, ils ont développé des notes de désirabilité. C'est des notes secrètes que seul Tinder peut voir, en fait. Et selon si t'es désirable ou pas, t'es en contact avec des gens qui sont désirables comme toi, selon si t'es sélectionné souvent ou pas.
Alors, vous avez peut-être reconnu, il s'agissait de l'humoriste Haroun, qui est particulièrement fort pour analyser les failles de notre société. Et ici, vous l'avez entendu, c'est Internet et les applis de notation sociale qui sont ces cibles. Alors, Cécile Dejoux, avant qu'on évoque comment, dans les entreprises, on va devoir apprendre à vivre avec les intelligences artificielles, une question à la fois, et surtout à la spécialiste du management que vous êtes. Est-ce que cette année de télétravail n'a pas eu pour effet de redessiner le rôle pilier du manager? Dit autrement, est-ce que cette crise sanitaire n'a pas fait émerger une nouvelle façon de manager dans les organisations?
Ah bah alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr qu'en fait, le manager, aujourd'hui, c'est un héros. C'est un héros, pourquoi? Parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu la continuité en fait, de l'activité. Et c'est grâce à lui qu'on a pu voir les téléfragiles ou les télérobustes, les collaborateurs qui étaient plutôt à l'aise avec le numérique ou ceux qui, au contraire, étaient complètement dépassés. Et le manager, il a eu ce magnifique rôle d'alerte, en même temps d'accompagnement et puis surtout eh bien, d'engager le collectif pour apprendre à travailler différemment. Donc, c'est à la fois un héros pour le business, c'est un héros aussi pour le maintien du lien social. Donc, les managers sont de plus en plus indispensables. Et même si demain, ce ne sera bien sûr pas comme hier, puisque demain, il va falloir réinventer le présentiel pour continuer à donner envie aux gens d'aller au bureau, eh bien, on verra que le manager a toute sa place parce qu'il est l'archétype de l'entreprise de demain.
Alors, au début de cette émission, on entendait donc l'humoriste Haroun hein, qui parlait d'intelligence artificielle un peu indirectement hein, via ses applis qui envahissent nos vies. Dans votre livre, Cécile, intitulé « Ce sera l'IA et moi », c'est un plaidoyer hein, pour qu'enfin nous regardions les choses en face, car l'intelligence artificielle fera de plus en plus partie de nos vies, en tout cas au travail. Comment et que faut-il faire pour que nous devenions IA compatibles ?
Alors tout d'abord, bonjour Johanna, j'ai oublié de vous saluer, c'est un plaisir aussi de discuter avec vous, hein, bien sûr. Alors oui, c'est très important en fait de comprendre au moins trois choses. L'IA est là, qu'on le veuille ou pas, donc elle a envahi de façon invisible les processus des organisations et les différents outils, que ce soit à destination des clients ou à destination des collaborateurs. Donc l'IA est là. La deuxième chose, c'est qu'en fait, elle est extrêmement en fait disruptive dans ses applications. Vous savez, c'était facile de comprendre l'arrivée du numérique parce qu'en fait, il y avait l'ordinateur ou il y avait le téléphone. Avec l'IA, il y a de plus en plus d'usages qui passent inaperçus et donc en fait, on ne sait pas nécessairement qu'elle est là et pourtant, elle va vraiment avoir eh bien, des options de remplacement ou alors elle va nous assister ou alors elle va nous augmenter. Donc, elle va vraiment transformer notre métier. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que pour pouvoir en tirer profit et travailler avec elle, il va falloir comprendre les codes, comprendre le vocabulaire, comprendre l'univers, comprendre en fait ce qui change. Et on est avec l'IA dans un monde de la probabilité et non plus dans un monde, eh bien, j'allais dire de la rationalité limitée, c'est-à-dire de ce qu'on peut faire de mieux. Là, on est dans un monde où le possible va avoir une probabilité, un peu comme la météo. On va nous dire que demain il pleut, mais c'est à 87%. Donc, même si vous prenez votre parapluie, c'est pas sûr qu'il pleuve à 100%. Donc, vous pouvez avoir toujours 20% de beau temps. Donc, c'est un peu ça le monde de l'IA. Et donc, il va falloir changer le code, changer les valeurs et changer la façon d'appréhender ces outils. Et être IA compatible, c'est comprendre que l'IA est là, comprendre que l'IA va changer nos métiers et comprendre ce que peut faire l'IA, où sont les opportunités et les dangers.
Alors pour prolonger la question de Johanna, et la première partie de votre livre passe en revue ce qu'est l'IA et ce que cette technologie est déjà capable de faire en termes de métiers. Alors vous dites trier, classer, extraire des informations, décoder et s'exprimer, recommander et prévoir. Deux questions. Première question, qu'est-ce qui va rester aux humains que nous sommes ? Et puis la deuxième question, c'est celle que vous écrivez dans votre livre. L'IA va-t-elle voler nos postes ou en créer ?
Alors, première question, qu'est-ce qui va rester aux humains ? Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout ce qui est lié à de l'automatisation probable sera très vite transféré aux IA. Tout ce que l'on peut trier, classer, ordonner, mettre en relation. En fait, ce sont souvent des tâches d'organisation à faible valeur ajoutée, mais il y en a quand même beaucoup dans les entreprises. Tout ça, eh bien, il faut savoir qu'à terme, les machines les feront mieux, ça sera moins cher et il y aura moins d'erreurs.
Quel métier, par exemple ?
Alors, par exemple, quelqu'un qui est dans une entreprise et qui va classer les mails. Je vous donne un exemple. Dans des grandes entreprises comme la Maïf ou dans des compagnies d'assurance où il y a énormément en fait de demandes par Internet, les mails arrivent à flot et il y a en gros des grandes catégories, des demandes d'attestation scolaire, des déclarations de fuite ou des déclarations de sinistre, etc. Avant, c'était les conseillers qui classer et redistribuer ces informations vers les bonnes personnes. tout en fait, ce pan d'activité aujourd'hui est fait par des IA. Par exemple, la Maïf a créé une IA qui s'appelle Mélusine. Elle est même en open source et elle permet de traiter tous les mails en entrée. Et les conseillers ne font plus que de l'analyse ou de la gestion de conflits, de la gestion fine quand il faut vraiment creuser des dossiers avec des propositions de conciliation, etc. etc.
Une part d'intelligence, quoi.
Voilà, de tri de mail. Donc ça, c'est un exemple très concret. Donc en fait, ce qui restera à l'homme, c'est tout ce qui est lié à la gestion des conflits et à la gestion de l'aléa. Tout ce qui est lié au conseil et à l'intégration donc de données futures, de prospectives. L'IA ne sait faire que ce qui est lié au passé. Tout ce qui va être dans la diversité des approches intelligentes, ça, ça restera de l'ordre de l'humain, et tout ce qui est lié, bien sûr, au collectif. Donc, on doit absolument travailler sur les tâches qu'on doit laisser à l'IA, savoir s'en dégager, mais en sachant les contrôler. On doit travailler sur tout ce que l'IA peut nous aider à faire, comme par exemple la gestion d'un projet. L'IA, grâce à plusieurs acteurs, grâce à un ensemble de données, va pouvoir dire « Monsieur Martin, il vous reste une demi-heure dans la journée. Compte tenu de ce que les autres personnes du groupe ont fait, on vous conseille de faire cette tâche parce qu'elle va dans la demi-heure, c'est à vous de la faire et elle n'a pas été faite par les autres. » Donc ça, c'est une assistance. Et là où il faudra investir du temps et de l'intelligence, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire grâce à l'IA qu'on ne pourrait pas faire sans elle. Par exemple, la traduction simultanée et avoir le discours en temps réel d'un interlocuteur indien alors qu'il va entendre et comprendre en temps réel ce qu'on va lui dire dans notre propre langue. Avoir, par exemple, la traduction de documents qui sont des documents techniques qui pourraient être vulgarisés, des documents qui auront été sur des plateformes et qu'on n'aura jamais eu l'opportunité de trouver, qu'on va pouvoir avoir à notre niveau. Ça, c'est très intéressant et c'est ce que l'IA va nous permettre de faire qu'on ne pourrait pas faire sans elle. Donc, ça va créer des nouveaux métiers. La grande différence, c'est que, bien entendu, tous ces métiers créés vont demander de plus en plus de compétences. Donc, il faudra augmenter notre niveau de compétences. Et ce qui est difficile, c'est que les métiers à faible compétence, ils seront beaucoup plus difficiles à trouver. Donc, il faudra les trouver dans des secteurs certainement autres que des secteurs liés à l'automatisation, au secrétariat, à l'utilisation de documents Excel, Word et autres, parce que tout ça, pourra être fait par une IA. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Après, le quatrième point essentiel, c'est que ce n'est pas parce que c'est possible d'être fait par une IA qu'il faut lui laisser tout faire. Je vais vous donner un exemple très clair. Aujourd'hui, les IA sont capables d'organiser votre agenda. Vous avez des IA telles que, par exemple, Julie.des qui peut prendre des rendez-vous à votre place et vous faire gagner 5 à 6 heures dans la semaine. Mais ce n'est pas parce que c'est possible qu'il ne faut pas garder le pouvoir sur votre agenda. Parce que si vous déléguez tout à une IA, vous n'aurez plus l'essentiel qui est du temps pour vous, du temps pour apprendre, du temps pour pouvoir justement être influencé, être inspiré et du temps pour décider de prendre un moment essentiel avec vos équipes ou avec un collaborateur qui est en fragilité. Et donc, oui, l'IA va pouvoir organiser votre agenda. Non, ne lui laissez pas tout faire. Justement, gardez le pouvoir sur votre agenda en gardant le contrôle sur, par exemple, un tiers de votre agenda qu'elle n'a pas le droit de toucher. Donc, c'est un peu ça le monde de demain. C'est monter en compétences pour pouvoir garder de la valeur et travailler sur des nouvelles tâches grâce à l'IA, mais garder aussi du pouvoir et du temps pour ne pas se laisser absorber par tout ce que l'IA va pouvoir faire à votre place.
Au regard de tout ce que vous venez de nous dire, de ces tâches qui vont être reléguées à l'IA, de ces métiers qui vont apparaître, comment le manager va-t-il devoir opérer avec ses équipes humaines ?
Alors, le manager, déjà, il va devoir lui-même être IA compatible, vous l'avez dit, c'est-à-dire comprendre le vocabulaire, comprendre les usages de l'IA, comprendre les biais, comprendre des points de contrôle et avoir un cadre de confiance, avoir un point de vue éthique pour pouvoir être dans la bonne direction, celle de son organisation. Deuxièmement, il va devoir apprendre à travailler avec des projets IA, c'est-à-dire avec des personnes qui sont des data scientists, des data ingénieurs, etc. Et comprendre qu'en fait, son rôle en amont d'un projet, en aval d'un projet, est essentiel et fera partie du succès du projet. Et donc, c'est vraiment important qu'en mode agile et design thinking, il correspondent et ils interviennent dans des projets IA. Et ensuite, troisièmement, il va devoir acculturer ses propres collaborateurs pour qu'eux-mêmes montent en compétence sur leur métier pour être eux-mêmes IA compatibles. Donc, il a un rôle lui-même d'augmentation de compétences, de participation à des projets IA et bien sûr d'acculturation donc de ses collaborateurs à ces nouvelles façons de travailler. Et puis, certainement, ensuite, il aura un rôle eh bien, d'écoute. Donc, son écosystème, ses fournisseurs, ses clients, mais aussi l'ensemble des startups avec qui il peut être amené à travailler pour voir quelles sont les tendances, les évolutions vers des usages, qu'ils soient des usages externes ou des usages internes, eh bien, de l'IA dans le travail.
Alors, vous écrivez, c'est page 31, que c'est, je vous cite, « à chacun d'imaginer son futur métier avec l'intelligence artificielle et de se définir sur des compétences clés, sources de différenciation ». Alors, désolé de vous poser la question aussi abruptement, mais est-ce que c'est pas un peu une vision un peu éloignée de la réalité de la vie d'entreprise, et surtout des salariés, quand on sait qu'il n'est déjà pas si évident que cela de se former tout au long de sa vie sur son propre métier ?
Alors oui, c'est en fait une question avec deux réponses tiroirs. La première réponse, c'est qu'en fait, on ne peut plus aujourd'hui, quand on travaille, avoir le temps de se former tout le temps à tout. Ce n'est plus possible parce qu'on n'a pas ce temps-là et on a une telle pléthore d'informations et aujourd'hui dans les organisations, un tel self-service d'offres de formation qu'on peut picorer tout le temps et qu'on a tout le temps ce sentiment en fait, eh bien, de ne pas avoir été sur la formation suffisante où on est avide mais on n'a pas le temps de tout faire. Et donc là, il y a un vrai sujet et l'IA va pouvoir nous aider là-dessus en nous disant, voilà la bonne formation qu'il faut par rapport au métier que tu as aujourd'hui, aux objectifs que tu te fixes pour le futur et surtout aux projets vers lesquels tu te destines. Et donc, c'est peut-être nous aider à avoir le choix par rapport à un contexte qui est individualisé, qui est bien entendu un avantage de l'IA. Le deuxième avantage, c'est qu'en fait, la deuxième question tiroir, en fait, la réponse tiroir, c'est qu'en fait, il y a certainement une co-construction à faire avec des personnes qui font le même métier que nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est aussi force de proposition dans l'évolution de son propre métier. On sait qu'en fait, c'est en changeant les choses que notre métier, nos clients, notre façon de convaincre aussi notre organisation se réalise. Et donc, avec les usages de l'IA, eh bien, il ne faut jamais s'interdire de proposer, d'essayer, de tester, d'être dans ce mode test and learn pour pouvoir justement eh bien, être différent parce que c'est dans la différence qu'on gardera une employabilité. Donc, voyez-vous, l'IA va nous aider à nous former en temps réel sur ce que l'on a besoin, alors qu'en fait, aujourd'hui, on est dépassé par l'offre pléthorique de formation en interne et en externe. Et deuxièmement, grâce à l'IA et grâce à nos pairs, ceux qui font le même métier que nous, on va pouvoir essayer de tester de nouveaux usages, de nouvelles façons de travailler, que ce soit par exemple dans la gestion de projet, dans la créativité, dans le dialogue, dans le stockage d'informations, dans la curation, etc. Et donc, ça va pouvoir eh bien, être aussi une source de différenciation.
Merci Cécile Dejoux, vous restez bien avec nous, on va faire une petite pause musicale de quelques instants. Il est pop, il est drôle et il annonce le printemps, c'est le troisième album du groupe français La Femme, toujours aussi hybride et surprenant. On écoute le titre Où va le monde, qui convient si bien avec le thème de cette émission dédiée à l'intelligence artificielle.
Le monde, pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels, où sont mes vrais amis, pourquoi je me méfie, qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices, oui personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle, et peu importe si l'homme reste si cruel, avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. laisse traîner dans la misère la plus totale. Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Je n'ai plus d'estime pour toi, tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui, c'était une belle histoire, pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos. Mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qui semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en...
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
De retour en studio pour Complètement à l'Ouest avec notre invitée du jour, c'est Cécile Dejoux. Elle est professeure au CNAM et à l'ESCP. Elle est chercheure au LISRA, le laboratoire d'innovation sociale par la recherche action. Et elle est également l'auteur d'un livre paru aux éditions Vuibert qui s'appelle Ce sera l'IA et moi. De retour avec Cécile et avec Philippe Boyer, évidemment.
Alors, dans votre ouvrage, vous prenez le parti de décrire l'évolution plus que probable de quelques métiers qui ne seront plus les mêmes du fait de l'arrivée de l'IA. Par exemple, vous dites, et je vous cite, qu'il y a fort à parier que les experts comptables deviendront les garants de la gouvernance des data et des algorithmes. Vous parlez aussi du métier de commercial ou de financier. Alors, en vous lisant, la bonne nouvelle, c'est que ces métiers-là vont continuer à exister, mais, et c'est peut-être la moins bonne nouvelle, c'est qu'ils n'auront plus grand-chose à voir avec ce qu'ils sont aujourd'hui. À l'inverse, et c'est la question que je souhaitais vous poser, quels sont les métiers, les fonctions qui ne changeront peut-être pas? Au fond, c'est la question de savoir si l'IA va plus détruire que de créer de nouveaux métiers.
Bah, en fait, c'est pas parce qu'on change qu'on détruit, hein. On peut très bien garder le métier, mais il va changer dans son contenu. En fait, je pense que, oui, tout le monde le sait, il y aura des métiers qui vont disparaître. Donc ça, c'est sûr. On a des métiers qui sont en tension. OK. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, ces métiers-là ne vont pas donner lieu à autre chose. Je vous donne deux exemples. Aujourd'hui, les caissières peuvent être totalement remplacées par des magasins où il n'y a plus de caissières. Il n'y a que des caisses automatiques. Regardez Amazon Go, regardez le Monoprix Avenue Franklin. Donc, en fait, ce sont des boutiques où vous rentrez avec votre caddie. Il y a de la reconnaissance donc du computer vision avec les objets que vous allez mettre dans votre caddie, avec vous-même, votre carte bleue. Vous ressortez, vous n'avez vu aucun humain et votre carte bleue est débitée.
C'est bon. Triste quand même. Hein.
Alors, c'est extrêmement triste. On est bien d'accord. Hein. Bon, ça, mais ça, c'est, j'allais dire, c'est l'extrême. Après, les caissières dans certaines boutiques comme celle-ci, elles font de l'animation de tête de gondole, elles font au contraire un ensemble de cartes de fidélité, etc. Elles s'occupent des livraisons. Et donc, il y a tout, en fait, des nouveaux métiers autour, bien sûr, du numérique et de l'IA qui sont apparus, qu'on voit moins, puisqu'ils sont moins dans le magasin, mais qui existent quand même. Donc, voyez, donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième point, c'est qu'il y a plein de nouveaux métiers qui se créent avec les intelligences artificielles, ceux qui vont être autour des données, comment on va mettre en conformité des données, comment en fait on va faire de l'éthique et on va faire on va garder en fait un cadre de confiance, on va créer des chartes, comment on va communiquer, comment on va s'occuper bien sûr de protéger les données personnelles, comment on va mettre des contrôles qualité sur les données. Donc tous ces métiers autour de la consultance, autour bien sûr de la protection, ils vont, on le voit bien, en explosion. On voit bien qu'aujourd'hui, si vous êtes dans l'informatique, dans les data et dans l'IA, ben, il n'y a pas de problème pour trouver un job. Donc, le sujet, c'est comment amener les personnes à avoir les bonnes compétences pour rentrer dans le marché du travail. C'est ça, le sujet. Après,
ah, on a perdu
création, on voit, oui.
Non, c'est bon, on vous entend. On vous a perdu pendant 2 secondes.
Oui.
Reprenez. Donc,
c'est que par exemple, on voit qu'aujourd'hui, un des métiers qui explose, c'est le métier du dernier kilomètre, le dernier kilomètre dans la livraison. Là, on a de plus en plus de personnes donc, qui vont être des livreurs du dernier kilomètre et que l'on peut faire en fait l'ensemble de ce processus grâce à des plateformes qui utilisent de l'IA. Donc, vous voyez, donc, on s'aperçoit qu'il y a un déplacement. Donc, tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas être aveugle. Si vous voulez absolument garder du pouvoir sur votre métier, il faut regarder comment ce métier, eh bien, il évolue. Comment vous pouvez faire pour monter en compétences et évoluer avec lui, être force de proposition pour ramener à vous des activités à forte valeur ajoutée et ne pas vous laisser imposer une disruption par l'IA. C'est ça mon message. Donc, on ne peut plus faire abstraction de l'IA parce qu'elle est là et qu'elle touche tous les métiers, et qu'aujourd'hui vous êtes classe, vous êtes coiffeur, vous êtes boulanger, vous êtes obligé en plus, on l'a bien vu avec la pandémie, d'utiliser ce téléphone pour pouvoir prendre des rendez-vous, pour pouvoir avoir en temps réel les commandes, les stocks, les livraisons, et votre expert comptable, eh bien, il va vous demander de faire une photo de la facture de votre fournisseur de blé, et ça ira directement dans donc, le logiciel de l'expertise comptable qui sera donc dédié à une IA, et ça va vous faire en temps réel votre compta. Donc, c'est ça la réalité. Hein. C'est quand même ça la réalité. Donc, ça touche tout le monde, donc il faut comprendre. Et moi, mon métier, c'est créateur de connaissances, et c'est expliquer, vulgariser, pour pouvoir aider les personnes à monter en compétences. Et c'est pour ça qu'on a fait un MOOC qui s'appelle l'IA pour tous, qui est sur la plateforme FUN, et qui est là pour donner des exemples, expliquer et montrer comment l'IA peut être une façon de transformer son métier et donc de rester employable.
Alors pour autant, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. Votre ouvrage ne tombe pas dans l'adoration béate de la puissance de la machine. Vous rappelez d'ailleurs hein, que la présence de ces machines dans nos vies crée de nouvelles addictions, voire pourrait être à l'origine de la fin du libre-arbitre. Au fond, vous tracez les limites éthiques de l'intelligence artificielle. Alors est-ce qu'on doit craindre ou espérer la venue de l'IA ?
Vaste question. Bah,
écoutez, c'est comme toute nouvelle technologie. Le feu brûle et le feu chauffe. Le nucléaire a créé la bombe et nous donne de l'électricité. L'IA, ça sera encore plus extrême. Ça peut apporter de magnifiques usages avec la médecine et en même temps, ça peut être terrifiant avec la surveillance ou avec eh bien, tout ce qui est autour de la biologie, l'embryon et tout ce qu'on peut faire. Donc, voilà. Donc, c'est extrêmement difficile. Tout dépend de ce que l'homme va en faire. Et c'est pour ça qu'il faut des cadres. Il faut un cadre international, donc un cadre qui donne des limites. Il faut un cadre dans les entreprises avec des chartes, avec bien sûr des comités éthiques. Moi, j'ai l'honneur de faire partie du comité éthique IA d'Orange et je trouve que c'est fantastique de voir une très grande entreprise dans les nouvelles technologies qui réfléchit justement eh bien, aux limites qu'elle se donne dans l'attribution et l'intégration de l'IA. Et à chaque projet, il y a une réflexion éthique. Donc, il y a un cadre au niveau des pays, il y a un cadre au niveau des entreprises et il y a un cadre aussi au niveau de chacun. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte ce que j'appelle la frugalité numérique. Quelle est votre propre action, vous, par rapport à votre utilisation du numérique et demain votre utilisation de l'IA à votre échelle? Parce que si on n'a pas ces trois poupées gigognes, donc les États, les entreprises et l'individu, ça ne pourra pas fonctionner et ça peut être très vite soit l'anarchie, soit la dictature. Donc moi, mon credo, c'est sauvons la liberté grâce à la connaissance. Et donc, il faut comprendre ce qu'est l'IA pour pouvoir garder le pouvoir sur ses choix. Parce qu'autrement, demain, ben, ça peut être des dictatures, on le voit bien, des plateformes qui vont vous aspirer des données, hein, et qui vont au contraire eh bien, vous donner en échange eh bien, simplement des bulles extrêmement, extrêmement bien ficelé de connaissances, et ça peut être très dangereux. Moi, demain, je ne veux pas que mes petits-enfants apprennent à écrire, à lire ou apprennent à avoir un diplôme avec simplement, eh bien, de l'enseignement par du Google, par du numérique. Je veux qu'ils apprennent la controverse. Je veux qu'il y ait la possibilité d'avoir des idées contraires parce que c'est dans la contradiction qu'on progresse, voilà. Alors, donc, c'est très important.
Allons-y dans la controverse. Et une question au professeur que vous êtes. Vous dites, et notamment à l'adresse de tous les salariés, il ne s'agit pas de savoir coder ou de devenir un expert en data science, c'est ça, vous l'avez mille fois bien décrit, mais d'acquérir des compétences. Et moi, la question que je me pose, c'est quelles sont ces compétences et surtout, comment pouvons-nous acquérir ces compétences en matière d'IA, tant à destination de salariés que vous citiez tout à l'heure, mais également d'artisans? Bref, concrètement, comment est-ce qu'on acquiert ces compétences qui font de nous, non pas un savant en IA, mais quelqu'un qui sait de quoi il parle et qu'il peut surtout utiliser l'IA?
Alors, première question, quelles sont ces compétences? Il faut comprendre déjà que l'IA, c'est un ensemble de briques technologiques qui font des choses différentes. Il y a tout ce qui passe par la reconnaissance faciale, la vision, la reconnaissance des objets, tout ce qui passe par la voix, ce qui passe par l'automatisation, ce qui passe par les processus. Donc déjà, il faut comprendre qu'en fait, ce n'est pas une technologie, ce sont des technologies. Deuxièmement, il faut comprendre en fait qu'il y a derrière ça des data et que dans les data, il y en a partout. Des data, ça peut être des tableaux Excel, mais ça peut être des grosses quantités de data qui sont des données, voilà, qui sont dans votre téléphone ou qui sont sur des plateformes, etc. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a des biais et comprendre la différente nature des biais. Des biais, on en a en tant qu'humain, ça s'appelle des biais cognitifs, et les machines en ont également, et que ces biais, comme on utilise des data passées pour prévoir le futur, ces biais peuvent être dangereux. Ensuite, il faut comprendre, bien sûr, qu'il y a la possibilité toujours de remettre en question la machine. Le doute technologique, c'est la base, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une confiance totale dans ce que vous propose une solution informatique ou une solution IA. Il faut toujours avoir la possibilité de s'interroger sur la véracité ou sur son nœud, donc de non-fiabilité. Ensuite, il faut savoir débrancher, arrêter les contrôles. Il faut savoir détecter des alertes. Il faut savoir où sont les datas et comment avoir un système informant de data dans une organisation. Et ensuite, il faut savoir quelles sont les grandes étapes d'un projet IA pour tester. Essayer d'éduquer une IA en utilisant par exemple, le petit robot Flint sur Internet de Benoît Raphaël. Essayez de comprendre ce qu'est un modèle prédictif en utilisant MyDataModel qui vous propose, eh bien, TADA, qui est une application gratuite sur Internet qui vous explique comment on utilise un modèle prédictif. Et ça, c'est très intéressant. Ça vous permet de comprendre qu'avec un tableau Excel de données, quelques critères, vous pouvez avoir un outil d'aide à la décision. C'est ça, être IA compatible, voyez ? C'est avoir cette culture, c'est pas du codage, mais c'est avoir une sensibilisation sur, par exemple, la data visualisation. Quand on a beaucoup de données, comment la data visualisation permet de mettre en image pour donner des arguments et nous permettre de comprendre la donnée. Donc ça, c'est la base. Vous le retrouvez dans le MOOC, vous le retrouvez dans des cours, vous le retrouvez dans des ouvrages, et surtout, ben, vous pouvez être formé en entreprise à cette culture data, culture IA, comme on a été formé à la culture numérique avec, par exemple, la plateforme PIX de l'enseignement supérieur.
S'ouvrir donc, à l'IA, s'ouvrir à l'IA. C'est ça là, voilà. l'une des clés en synthèse et en réponse à ce propos sur comment, en effet, acquiert-on cette culture de l'IA, c'est très clair. À destination des entreprises, justement, vous évoquez cette étape de la prise de décision pour le lancement d'un projet IA. Concrètement, je suis chef d'entreprise, par quel bout je dois prendre ce sujet pour faire en sorte que mon entreprise, quelle que soit sa taille, eh bien, soit IA compatible ou s'intéresse à l'IA? Quelles sont les clés de base?
Alors, on va aller à l'essentiel. Il y a trois clés. La première question, c'est qu'en fait, il vous faut un problème. Il vous faut un objectif. C'est pas on fait de l'IA pour de l'IA. C'est pas je vais faire la cartographie de toutes les datas dans mon entreprise et je vais faire de l'IA. Ça, c'est l'erreur. Non, on a un problème. Et on se dit, par exemple, je veux cibler des nouveaux clients. Et on se dit, est-ce que pour ça, j'ai besoin d'IA ou pas? Donc, comment on peut savoir? On peut voir s'il existe des solutions qui intègrent de l'IA ou on peut essayer donc de se rapprocher de personnes qui ont eu le même problème, voir comment elles ont fait. Donc, la première chose, c'est qu'en fait, l'IA n'est pas la réponse à tous les problèmes. Et il ne faut pas mettre de l'IA pour mettre de l'IA, il faut mettre de l'IA parce que ça répond à un problème et que c'est la bonne solution. La deuxième question essentielle, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de machine learning ou de big data pour faire de l'IA. C'est une des possibilités, certainement aujourd'hui une des meilleures possibilités quand on a beaucoup de data, mais on peut faire de l'IA avec peu de data. C'est ce qu'on appelle du small data, de l'IA symbolique. Et donc, vous avez des entreprises qui peuvent utiliser des systèmes d'IA, des algorithmes, avec simplement des données qu'elles ont à leur niveau dans un service RH, dans un service commercial, dans un service achat, dans un service supply chain. Donc, il ne faut pas associer l'IA simplement au big data. C'est la deuxième idée importante à comprendre. La troisième idée, c'est que pour faire de l'IA, il faut bien sûr des experts d'IA. S'ils ont donc considéré que c'était la bonne solution à la question, au problème donné. Et puis ensuite, il ne faut surtout pas ne mettre que des experts de l'IA, parce que ça, c'est la cata. Il faut absolument associer des managers, des experts métiers, des personnes qui sont dans le processus du problème et qui ont fait remonter le problème. Et il faut mettre des utilisateurs. Et ensuite, donc, il faut faire travailler en mode transverse avec, bien sûr, des professionnels d'IA, eh bien, des équipes qui vont proposer en mode agile des prototypes qu'on va tester, on va itérer et ensuite, on va monter en scalabilité avec les utilisateurs et les managers. Donc, c'est un vrai mode d'organisation. Regardez, dans le MOOC, nous avons un exemple et dans le bouquin également, un exemple de EDF qui, comme Malakoff Humanis, ont pris des problématiques, ont créé en fait une fonction transverse au service des métiers pour les aider à régler leurs problématiques. Et dans cette fonction transverse, on a et les managers, et les experts métiers et les experts d'IA qui, ensemble, en mode agile, en mode design thinking, vont faire des POC pour répondre aux problèmes et ensuite aller vers des solutions de plus en plus scalables.
Du bon sens, en quelque sorte. Savoir voilà. Ce que l'on veut faire dès le départ, c'est en effet la clé et c'est une réponse de bon sens. Johanna, peut-être une ultime double question parce que le temps tourne, malheureusement, il va falloir bientôt rendre l'antenne.
Oui, c'est le problème de la radio. On va quand même vous poser deux questions pour terminer parce que quand on aime, on ne compte pas. D'abord, Cécile, comment éviter que notre société se divise en deux catégories avec d'un côté les techno-leaders qui maîtriseraient l'IA et toutes les nouvelles techs, et puis les technos largués. Et la suite, la deuxième question, la deuxième partie, qui est presque poétique d'ailleurs, c'est comment faire pour que l'IA nous fasse rêver?
Ah.
Et tout ça en une minute, hein, bien sûr.
Je pense que la plus belle proposition, le plus beau conseil, c'est dire quand on ne sait pas. Parce qu'en fait, personne ne sait jamais tout le temps. Donc, il faut dire « je ne sais pas ». Il faut se faire aider et il faut aller vers ceux qui savent et puis pas avoir honte à dire bah, « je ne comprends pas, je ne sais pas ». C'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui. Et puis, oui, l'IA peut nous aider à créer. Aujourd'hui, l'IA peint, l'IA crée des livres. L'IA, aujourd'hui, est achetée aux enchères, hein, avec que ce soit des créations, des œuvres, etc. Bon, moi, ce que je pense qui est magnifique, c'est que je pense que demain, l'IA est en train de nous créer la ville de demain. Elle est en train de nous créer de nouvelles façons de vivre. Et donc ça, c'est très important que tout le monde en tant que citoyen y participe, parce que c'est notre futur, c'est comment on va vivre demain, et elle est en train de nous créer de notre façon bien de faire de l'agriculture, de penser également. Et il y a même une machine, une IA qui est en train de réfléchir sur le bien et le mal. Donc vous imaginez, en fait, on n'arrête pas le progrès. Je crois qu'il faut rester très, très, très simple. Il faut se dire que de toute façon, on a une spécificité, nous, en tant qu'humains, c'est qu'on doit aller lentement. Lentement pour apprendre, lentement pour partager et lentement pour admirer la nature. Et que ce n'est pas parce que l'IA va aller super vite qu'il faut aller à son rythme. Restons à notre rythme et restons sur nos compétences purement humaines qui sont décrites dans l'ouvrage qui s'appelle les compétences de centrage. C'est quoi ? C'est comment on va rester attentif, on va continuer à mémoriser, on va continuer à garder le pouvoir sur son temps, on va garder ce qui nous donne de l'énergie, ça c'est très important pour en donner aux autres. Restons humains parce que de toute façon, l'IA a son propre champ d'investigation et il ne faut pas vouloir se comparer à elle.
Je comprends mieux le titre de votre ouvrage, ce sera « L'IA et moi » et non pas « Sans moi » ou « Ou moi ». L'IA et moi, merci Cécile Dejou d'avoir été notre boussole pour cette émission passionnante. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de ce livre que je citais à l'instant, ce sera « L'IA et moi » paru chez Vibert, et que vous êtes professeur au CNAM et le SCP, on le disait tout à l'heure. Pour nos auditeurs, vous qui souhaiteriez en savoir plus sur vos travaux et vos très nombreuses prises de parole, je les incite à visiter votre site de mémoire, c'est www.cecildejou.com. Sans oublier votre page LinkedIn et YouTube, et prochainement, comme vous le disiez en introduction, le lancement d'un MOOC sur le management post-Covid. Merci beaucoup, Johanna. Merci à toute l'équipe de Radio Immo qui a œuvré à la préparation de cette émission, qui s'est faite à distance, comme si nous étions tous en studio, mais nous étions à distance. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, et je le dis à chaque fois, cette émission peut être réécoutée sur des podcasts, sur des sites de Radio Immo, sur le site de Radio Immo, ainsi que sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et beaucoup d'autres plateformes de balado-diffusion. D'ici là, bon vent. Cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Merci à tous, à bientôt.
Il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.